Vous écoutez, on lit pour vous.
Les 104 jours de détention de l'étudiant Mahmoud Khalil, un texte de Guillaume Lavallée de l'agence France Presse, paru le 24 juin 2025 dans Le Devoir. 8 mars 2025. Des agents en civil de la police de l'immigration déboulent dans une résidence de l'Université Columbia habité par Mahmoud Khalil et son épouse, Noor Abdallah. Basket blanche, chandail en polaire vert, l'étudiant d'origine palestinienne est emmené à 2000 km de là dans un centre de détention pour migrants illégaux. Shalom Mahmoud lance aussitôt la Maison-Blanche sur son compte X, tandis que le président Donald Trump se félicite de l'arrestation par la police de l'immigration, ICE, de cet étudiant radical pro-Hamas au campus de Columbia. Mahmoud Khalil est soudain projeté sur le devant de la scène et devient le symbole d'un affrontement idéologique entre Donald Trump et son gouvernement d'un côté et des mouvements pro-palestiniens de l'autre, qui dénonce un génocide perpétré par Israël avec le soutien américain dans la bande de Gaza. Titulaire d'une carte verte de résidence, Mahmoud Khalil est envoyé dans un centre de détention à Jenah, en Louisiane, loin de son épouse, alors enceinte de 8 mois, dans l'attente de sa possible expulsion des États-Unis. Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio, jugeant qu'il représente potentiellement des conséquences sérieuses pour la politique étrangère. C'est dur de trouver de la quiétude dans un centre de détention d'ICE. Il y a des centaines de personnes à qui l'on dit que leur existence même est illégale et aucun d'entre nous ne sait quand il pourra être libéré. Dans ces moments difficiles, je me rappelais une phrase qui me donnait de la force. « I believe that we will win. » »« Je crois que nous gagnerons », a-t-il raconté, au bout de 104 jours de détention. Pleurer. Vendredi 20 juin 2025, un juge a ordonné sa libération conditionnelle. Samedi, il a atterri dans la région de New York. Et dimanche, il a marché, entouré de centaines de sympathisants et sous fort déploiement policier, au pied de l'Université Columbia, qu'il accuse de ne pas l'avoir protégé. Columbia est hypocrite. Il y a encore 2 semaines, il disait qu'il protégeait leurs étudiants internationaux, alors qu'en plus de 100 jours de détention, je n'ai pas reçu un seul coup de fil de l'université, a-t-il raconté à quelques journalistes, dont l'AFP, après sa libération. Fin mai 2025, la présidente de l'université, Claire Shipman, avait évoqué le cas de Mahmoud Khalil et l'importance de protéger les étudiants étrangers et la démocratie lors de son discours pour la remise annuelle des diplômes. Les étudiants l'avaient alors hué. Détenu à des milliers de kilomètres, Mahmoud Khalil, qui devait recevoir ce jour-là sa maîtrise en politique internationale, n'a pas entendu leurs cris. Il écoutait plutôt les histoires de ses co-détenus. « Je partageais un dortoir avec 70 hommes. » Il n'y avait pas d'intimité. Les lumières étaient constamment allumées. Je passais mes journées à écouter des histoires tragiques. Celle d'un père de 4 enfants dont la femme combattait le cancer pendant qu'il était en détention. Celle d'un homme qui a passé 20 ans aux États-Unis, dont les enfants sont américains, et qui a été expulsé par la suite. C'était normal de voir des hommes pleurer, dit-il, qualifiant ces centres de détention d'horribles, de taches sur la conscience américaine. Contre la haine. Cheveux charbon bouclés, barbe mince et moustache, kéfier palestinien autour du cou, Mahmoud Khalil se défend de toute violence. Le gouvernement a tenté de me présenter comme une personne violente. Mais il n'y a pas de place dans le mouvement palestinien pour la haine, que ce soit la haine des Noirs ou l'antisémitisme, dit-il, aux côtés de son épouse, Nohor Abdallah. Je me faisais vraiment du souci pour mon épouse Nohor qui était enceinte, d'autant que pendant les 30 premières heures de détention, je n'avais aucun moyen de communication avec elle. Nohor Abdallah, dentiste né au Michigan, qu'il avait rencontré il y a des années au Liban, avant de venir la rejoindre aux États-Unis, a donné naissance à leur fils Dean, sans son mari à ses côtés. En détention, Mahmoud Khalil a pu voir son fils une fois, environ une heure. Ce qui nous a été pris ne nous sera jamais rendu, soutient Nohor Abdallah, le visage ceint d'un hijab. Notre fils saura que son père s'est tenu debout dans les moments les plus durs, qu'ils ont essayé de le faire taire, mais que sa voix est désormais plus forte qu'elle ne l'a jamais été. C'était « Les 104 jours de détention de l'étudiant Mahmoud Khalil », un texte de Guillaume Lavallée de l'agence France Presse, paru le 24 juin 2025 dans Le Devoir.
Prévenir plutôt que punir, l'approche des écoles face à la consommation. Un texte de Gabriel Audet-Michaud, paru le 27 juin 2025 dans Le Franco. Tandis que les jeunes de 15 à 24 ans présentent, pour certaines substances, les taux de consommation les plus élevés au pays, les écoles redoublent d'efforts pour les sensibiliser aux risques liés à la drogue. Dans les conseils scolaires francophones de l'Alberta, des initiatives de prévention sont mises en place, même si l'on estime que la population étudiante demeure, pour l'instant, relativement peu exposée aux substances les plus à risque. Selon l'enquête canadienne sur la consommation de substances de 2023, près de la moitié des jeunes, 48%, avaient consommé du cannabis au cours de la dernière année et 28% avaient utilisé des produits de vapotage dans le dernier mois. Ces proportions étaient nettement plus élevées que celles observées chez les adultes, 30% et 7% respectivement. Le sergent Marc Comeau du service de police de Calgary observe ces tendances de près dans le cadre de son travail d'agent de liaison dans les écoles. « C'est certain qu'il y a toujours de la drogue dans les établissements scolaires », affirme-t-il. « Dans mon expérience, les jeunes consomment surtout du cannabis à travers des vapoteuses. Rappelons d'ailleurs que l'utilisation du cannabis est illégale jusqu'à l'âge de 18 ans dans la province albertaine. Cette forme de consommation, plus discrète, facilite l'accès, mais provoque aussi une certaine banalisation du produit. On le voit beaucoup plus qu'avant. » Ça fait 10 ans que je suis dans le métier et je dirais que j'ai vu le vapotage vraiment augmenter en popularité ces dernières années, ajoute-t-il. Les drogues plus dures, comme le fentanyl ou l'héroïne, semblent, quant à elles, circuler très peu dans les établissements scolaires de Calgary. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas du tout, mais de mon côté, je vois beaucoup moins de cas liés à ce type de substance, nuance le sergent. Pour repérer ce genre de situation à temps et désamorcer les comportements à risque, la présence des agents de liaison scolaire, appelés School Resource Officers, SRO, joue un rôle essentiel. Affectés directement aux établissements scolaires, ces policiers interviennent autant en matière de sécurité que de prévention, souvent en étroite collaboration avec les écoles. Selon le sergent Comeau, cette approche permet non seulement de maintenir un climat scolaire sécuritaire, mais aussi de créer un lien de confiance avec les élèves. L'idée, ce n'est pas de judiciariser les jeunes qu'on surprend avec de la drogue, mais de les orienter vers du soutien, explique-t-il. Le programme de diversion mis en place à Calgary privilégie justement l'accompagnement plutôt que la répression. On met en place des mesures pour aider l'élève et sa famille. Et les résultats sont là. Si je ne me trompe pas, 92% des jeunes qui ont participé au programme n'ont commis aucun autre délit l'année suivante. Le programme d'agents de liaison scolaire est freiné par un manque criant de ressources, constate le sergent Marc Comeau. On n'a tout simplement pas assez de personnel pour faire le travail comme on le voudrait. Ce sont des enjeux budgétaires, mais aussi une question de pénurie. Il n'y a pas assez de policiers. Point, déplore-t-il. Cette réalité limite également la portée du programme dans les écoles francophones, où les besoins particuliers ne peuvent pas toujours être comblés. Marc Comeau est à ce jour le seul agent de liaison bilingue au sein du service de police de Calgary. Une collaboration nécessaire. La prévention en matière de drogue repose avant tout sur un travail d'équipe. Il n'est pas rare que le sergent Comeau collabore étroitement avec la direction des écoles fréquentées par des élèves vulnérables afin de discuter de leur situation et d'envisager des solutions adaptées. Selon lui, les ressources en place dans les établissements scolaires sont efficaces, surtout lorsqu'elles s'inscrivent dans une approche concertée. On ne travaille pas en silo, que ce soit avec le Calgary Board of Education, le Conseil catholique ou le Franco-Sud, on mise sur la collaboration. Direction, enseignants, intervenants et police. On agit tous ensemble pour soutenir les jeunes. Les écoles ont en masse de ressources en place à l'interne aussi, souligne-t-il. Un constat partagé par Marilyn Hood, gestionnaire de programme pour le projet Appartenance, qui accompagne les élèves francophones du sud de l'Alberta. Le Conseil scolaire franco-sud est actuellement en train de développer une nouvelle procédure en matière de toxicomanie afin de mieux encadrer la consommation de substances psychoactives chez les jeunes. On ne veut pas juste punir l'élève, mais lui offrir des ressources en fonction de là où il se trouve dans le continuum de la dépendance, explique-t-elle. Dans cette optique, le Conseil scolaire entend renforcer ses partenariats avec des agences externes, y compris les agents de liaison, pour mieux soutenir les jeunes les plus vulnérables. Chaque personne qui ajoute son petit grain de sel contribue à éduquer les jeunes pour qu'ils soient mieux outillés à faire des choix éclairés, ajoute-t-elle. La mise en œuvre de cette nouvelle approche est prévue d'ici la fin du calendrier scolaire 2024-2025 ou au moment de la prochaine rentrée. Bien qu'elle reconnaisse l'importance des efforts déployés en matière de prévention et insiste sur la nécessité de rester vigilant, Marilyn Hood se réjouit que les cas de consommation active demeurent, pour l'instant, relativement peu fréquents au sein du Franco-Sud. « Ce n'est pas un gros morceau de notre conseil », affirme-t-elle. Une impression partagée ailleurs dans la province. Du côté du Conseil scolaire Centre-Nord, CSCN, la consommation en milieu scolaire semble tout aussi exceptionnelle. Il arrive qu'un élève se présente à l'école sous influence, mais c'est plutôt rare. En fait, c'est très rare, indique André Nobert-Bennett, directrice générale adjointe. Selon elle, lorsque des situations de consommation se présentent, elles se déroulent généralement en dehors du cadre scolaire et sont le plus souvent signalées au personnel par d'autres élèves ou par des membres de la famille. Par exemple, le meilleur ami pourrait aller voir un enseignant et dire « Mon ami fait des choses risquées, je ne sais pas trop quoi faire ». C'est plutôt comme ça qu'on l'apprend. Et dès que c'est signalé, on agit, relate-t-elle. Pour renforcer la prévention, le Conseil scolaire Franco-Sud mise sur le programme universel Développe Action, élaboré par l'organisme communautaire québécois Action Toxicomanie. On aborde les facteurs de protection, par exemple, qui sont hyper importants, précise Marilyn Hood. Au nord de la province, le CSCN mise, quant à lui, sur le projet Espoir, déployé dans l'ensemble de ses écoles. 4 intervenants y sont dédiés, et un de leurs mandats est précisément de sensibiliser les jeunes aux risques liés à la drogue. On intervient surtout de la 7e à la 12e année, en abordant la surconsommation et l'importance de faire des choix de vie sains, explique André Nobert-Bennett. De la prévention à faire chez les élèves immigrants. Si la consommation de drogue demeure relativement marginale dans les écoles francophones, certains groupes d'élèves présentent toutefois une vulnérabilité accrue, notamment les jeunes issus de l'immigration. Pour Thibault Nguini, travailleur en établissement scolaire pour le portail de l'Immigrant Association, PIA, les stratégies de prévention doivent être adaptées aux réalités sociales et culturelles propres à ces jeunes. Il y a chez plusieurs un réel besoin d'éprouver un sentiment d'appartenance à la communauté qui les accueille. Et ça, c'est à la fois positif et négatif, explique-t-il. C'est positif parce qu'ils veulent s'intégrer, découvrir la culture, s'ouvrir aux autres. Mais le revers, c'est qu'ils veulent tout essayer. Et quand ils sont entre amis, dans des contextes qu'on ne peut pas toujours encadrer, c'est là que le risque de glisser vers des comportements dangereux peut apparaître. La posture de fragilité des jeunes immigrants face aux drogues n'est pas liée à un plus grand attrait pour ces substances, insiste-t-il, mais bien à un contexte d'intégration précis où le désir de se conformer peut l'emporter sur la prudence. Lorsqu'une situation préoccupante est repérée, l'intervenant travaille en étroite collaboration avec les équipes écoles et d'autres spécialistes pour agir avec délicatesse. Comme travailleurs en établissement, nous sommes limités aux activités de sensibilisation. S'il y a un cas à gérer, comme cela m'est arrivé récemment, je peux faire appel à une travailleuse sociale pour intervenir auprès de la famille et établir un accompagnement adapté, indique-t-il. Si vous désirez en savoir plus ou parler de vos difficultés, Action Toxicomanie et Développe Action. Site web actiontox.com, actiontox.com. Maison Jean Lapointe. Site web maisonjeanlapointe.org. TAO Telaide. Ligne d'écoute empathique gratuite. 1-800-567-9699, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'était « Prévenir plutôt que punir, l'approche des écoles face à la consommation », un texte de Gabriel Audet-Michaud, paru le 27 juin 2025 dans le Franco.
Souvenirs d'adolescence et de moments magiques grâce à Serge Fiori, un texte de témoignage paru le 26 juin 2025 dans Le Devoir. Avec la mort de Serge Fiori, le Québec perd une figure emblématique de la chanson. Des lecteurs du Devoir témoignent de ce qu'évoque pour eux l'ancien leader iconique du groupe Harmonium. Il n'était pas un musicien parmi tant d'autres. Marie-Claude Dupont. On dit souvent que la musique de notre adolescence est celle qui, fondamentalement, nous marque le plus. On y reste attaché peut-être parce qu'elle ravive les souvenirs d'une période intense de découverte de soi et de construction identitaire. Je me souviens ainsi de l'endroit exact où j'ai écouté pour la première fois certaines chansons, certains artistes. Malgré ma mémoire défaillante, je replonge ainsi des décennies en arrière, avec en tête les émotions vécues à la première écoute de Dark Side of the Moon, Hotel California et d'autres morceaux emblématiques de ma jeunesse. L'album Harmonium est le tout premier disque vinyle que j'ai acheté avec mon argent de poche, suivi de Breakfast in America de Supertramp et de l'album de Beau Dommage. C'était un trio de feu pour moi qui fut élevé dans une famille où la musique avait une importance capitale et où tous les genres trouvaient leur place dans nos cœurs. Aucune compétition. Que du plaisir à écouter le chœur de l'armée russe, des mélopées de cowboy, des nocturnes de Chopin ou Tickers a Brick de Jethro Tull. Je me suis donc rué sur les paroles de Serge Fiori, comme la misère sur le pauvre monde, me reconnaissant instantanément dans cette nouvelle musique, ces mots. C'est probablement l'un des rares albums dont je pouvais réciter et chanter toutes les chansons. Les mélodies, les textes, la sensibilité du chanteur, la virtuosité des musiciens. En fait, tout était en place pour combler l'appétence des jeunes d'alors, dont j'étais, qui cherchaient un sens à leur vie, recherchaient des modèles culturels forts. Se trouvait inscrite dans ce terreau d'harmonium une recette unique qui s'est propagée à la vitesse de l'éclair et qui a culminé par la suite avec les 5 saisons et l'incontournable album concept « L'Heptade » en 1976. Serge Fiori était une voix, une tessiture imparfaite, mais parfaitement singulière, qui le plaçait au top de mes artistes favoris. Sa sensibilité exacerbée que j'ai redécouverte des années plus tard, lorsqu'il est revenu avec un album à son nom, m'a toujours ému. Je me souviens d'avoir réécouté ses chansons en me disant que cet homme était un sage, sans le savoir. Il nous guidait vers une conscience aiguë de l'existence, sans ostentation ni tapage. Aucune arrogance en lui. Son message était à la fois puissant, simple et doux. Sa mort coïncide avec la Saint-Jean-Baptiste, alors que nous sommes tous ou presque happés par cet élan nationaliste qui n'arrive qu'une fois par année. Il n'y a pas de plus beau départ, même si son absence sera ressentie pendant longtemps. Pour plusieurs, Carl Tremblay incarnait l'espoir de toute une génération. Pour la mienne, en tout cas pour moi, Fiori était l'icône suprême. Il n'était pas un musicien parmi tant d'autres, c'était un extraordinaire créateur, parmi les plus grands que le Québec a connus. Plus que jamais aujourd'hui, il faudra l'écouter, le réécouter, le célébrer. Un phare. Claude Girard. Fiori évoque la dualité québécoise, sa fragilité assumée et la résilience du coureur de fond, du coureur des bois, de par la pérennité de son œuvre. José-Anne Simard. Serge Fiori, c'était le phare du groupe Harmonium, un parolier génial qui a marqué une des plus belles époques du Québec moderne. Les paroles des chansons étaient poétiques, les mélodies harmonieuse. Il était le chef d'orchestre, en quelque sorte, de ce groupe original qui a magnifié la langue française du Québec. L'époque de la sortie des 3 albums cultes était celle de l'apogée du nationalisme québécois. Un grand moment d'espoir et de fierté qu'accompagnaient aussi des leaders inspirés. Le groupe s'est éteint, mais l'œuvre monumentale a survécu. Merci Serge Fiori pour votre immense talent et pour tous ces morceaux iconiques que nous chantons ce soir avec nostalgie. Yves Desormeaux. Il y a des époques et ceux qui marquent ces époques. Et il en était, par son talent musical. Il en a fait une merveilleuse. Puissions-nous nous en inspirer pour la suite du monde. Sylvie Gauthier. C'est vraiment triste. C'est ma génération qui commence à partir. J'ai tellement chanté ces chansons-là. Descendu les rues vers le métro après le spectacle du Sepsum de l'Université de Montréal, j'ai 14 ans et tout le monde chante sur le chemin. Ça fait du bien de se voir, ensemble dans un lieu d'espoir. Je crois en toi tellement fort, si on chantait encore. Quel moment magique que je n'oublierai jamais. Merci Serge pour ce trip. R.I.P. Une petite révolution. André Lamoureux. De 1970 à 1975, parallèlement à mes études post-secondaires, il m'a été donné de travailler comme garçon de table, serveur, à la boîte à chansons Le Patriote, cette fameuse salle de spectacle de Montréal où se produisaient les meilleurs artistes populaires du Québec et de la France qu'ils fussent chanteurs ou chanteuses, groupes musicaux ou humoristes. Tout cela dans un contexte d'explosion de la culture québécoise. Comme serveurs, nous côtoyons ces artistes puisque leur loge se situait juste aux côtés du bar de service où nous travaillions. Ce faisant, nous étions souvent en contact avec tous ces artistes avec qui nous conversions, bien entendu. La liste est longue, de Gilles Vigneault à Jacques Brel, Barbara, Robert Charlebois, Marie Laforêt, Sol, Marc Favreau, René Claude, Michel Simon, Les Cyniques, Claude Dubois, Beaudommage et combien d'autres. À compter de 1972, le groupe Harmonium fit son entrée en scène au Patriote. Il se produisit à quelques reprises. Ce fut une petite révolution. Chaque fois, avec Harmonium, c'était l'explosion pure de la culture québécoise. Ce groupe lançait un tout nouveau rock à forte teneur harmonique. Par ses chansons enveloppées d'une musique enlevante, il touchait droit au cœur comme peu de groupes pouvaient le faire. La salle du Patriote était toujours pleine à craquer et à sauter. J'ai bien sûr assisté à plusieurs de ses prestations. Serge Fiori demeurait fort sympathique avec nous tous qui travaillions à rendre le meilleur service. Nous avons toujours établi une belle relation avec lui et son groupe. La pièce qui, à mon avis, exprime le plus ce son harmonique, c'est « Dixie », incluse dans le deuxième album « Si on avait besoin d'une cinquième saison ». À mon sens, il s'agit du summum de cette musique fine et envoûtante. Il faut l'entendre et la réentendre. Serge Fiori, musicien et chanteur, restera pour toujours un monument de la chanson et de la culture québécoise. Un géant. Notre John Lennon. Carole Lagrenade. Qu'évoque Serge Fiori pour moi? La fin de mon adolescence, le début de l'âge adulte. C'était notre John Lennon. Stéphanie Vallée. C'est une époque qui s'éteint avec Serge Fiori. On a toujours l'idée que ces grands sont éternels. Triste Saint-Jean 2025. Luc Lapierre. Il fait partie de la courte liste des musiciens d'exception. C'est avec sa musique qu'il parlait le mieux. Il demeure à lui seul une cinquième saison. Comme Félix, il laisse un grand vide qui ne sera jamais comblé. C'était « Souvenirs d'adolescence et de moments magiques » grâce à Serge Fiori, un texte de témoignage paru le 26 juin 2025 dans Le Devoir.